L'actualité des Alpes du Sud, les disparus de Boscodon, deux enquêtes classées sans suite.
Les enquêtes après les disparitions de Laurence Clam et Cédric Delahaye, leur corps avait été retrouvé l'été dernier, mais rien ne laisse conclure à l'intervention d'un tiers. Selon le parquet de Gap, les pistes du suicide ou de la chute accidentelle sont retenues.
Emmanuel Macron veut être au chevet des urgences.
Alors que le service de Manosque fermera à nouveau pour 5 nuits. Dès la fin de semaine, le chef de l'État a annoncé hier l'ouverture d'une mission d'information d'un mois pour diagnostiquer les besoins.
Et ce sont entre 800 et 900 militaires gapensés qui ont été projetés en l'espace de 10 ans en Afghanistan.
C'était entre 2002 et 2012, un engagement du 4e régiment de chasseurs Rude. On l'a commémoré en début de semaine au sein du quartier Général Guillaume Agap, témoignage.
La SNCF fait feu de tout bois et la SAPN dénonce un massacre à la tronçonneuse.
Depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, des sociétés mènent une campagne d'abattage d'arbres à Gap, la Fraissinouse, mais aussi Luz-la-Croix-Haute, la Reine-Montéglin et Aspre-sur-Buëch en bordure de voies ferrées. L'association écologiste demande l'arrêt immédiat de ce chantier.
JO et la flamme olympique qui passera par les Alpes-de-Haute-Provence.
C'est ce qu'a annoncé hier la présidente du conseil départemental, Éliane Bareil, alors que la France s'apprête à accueillir en 2024 les Jeux olympiques et paralympiques. Côté météo, c'est instable cet après-midi.
Oui, alors début de journée bien ensoleillé, hein, malgré quelques petits nuages vers l'Isère et la Savoie, et puis des cumulus se forment l'après-midi. Ils vont prendre de l'ampleur au fil des heures jusqu'à donner quelques averses pouvant localement être accompagné d'un coup de tonnerre. Côté température, nette hausse, hein, 24 à 30 degrés sur les Hautes-Alpes et ça montera jusqu'à 31-32 sur les Alpes de Haute-Provence. À la une de l'actualité, deux enquêtes classées donc sans suite dans les affaires des disparus de Boscodon.
La justice n'ira pas plus loin. Après la découverte l'été dernier des corps de Cédric Delahaye le 27 juin 2021 et de Laurence Bouilly-Clam le 19 juillet, alors que des enquêtes en recherche des causes de la mort avaient été ouvertes, elles sont désormais classées sans suite. C'est ce qu'indique le procureur du parquet de Gap, Florent Crouy. Les familles en ont été informées la semaine dernière. Les investigations ainsi que les experts médicale n'ont pu établir l'intervention d'un tiers dans le décès de ces deux randonneurs portés disparus en octobre et décembre 2020. Le suicide ou la chute accidentelle sont donc les pistes les plus plausibles selon le parquet, des pistes qui étaient déjà privilégiées à l'époque.
Alors que les urgences de Manosque s'apprêtent à fermer à nouveau 5 nuits, hein, dès ce vendredi, Emmanuel Macron annonce le lancement d'une nouvelle mission d'information.
Le président était en déplacement ce mardi au centre hospitalier de Cherbourg, alors que 120 services d'urgence en France ferment ou limitent leur activité, à l'image de celui des Alpes d'Haute-Provence. Emmanuel Macron lance donc cette mission d'information d'un mois sur les soins non programmés. Une table ronde devrait suivre avec tous les acteurs de la santé, de l'accès aux soins urgents et non programmés. Les manques existants devraient être passés en revue pour faire un bilan concret de la situation des systèmes d'urgence, a insisté le chef de l'État. Dès juillet, une grande conférence sur la santé devrait aussi se tenir.
C'était il y a 10 ans. Le 4e régiment de chasseurs était désengagé d'Afghanistan.
Entre 800 et 900 soldats gapensés ont été projetés sur ce théâtre de guerre de 2002 à 2012. Un engagement qui a connu deux phases. Une première plutôt calme entre 2002 et 2008 et une seconde de 4 ans plus rude après la décision du président de l'époque, Nicolas Sarkozy, de déployer les troupes dans la province de Kapisa, l'une des plus dangereuses du pays. Pendant 4 hivers consécutifs, les chasseurs gapensés ont fait face à un conflit d'une forte intensité bien loin des opérations connues auparavant au Liban, en Bosnie, au Kosovo ou encore en Côte d'Ivoire. Une rétrospective a été organisée lundi au quartier général Guillaume pour commémorer la fin de cet engagement. Après une prise d'armes, une série de films a été diffusée devant une cinquantaine de vétérans qui ont pu voir de nombreux témoignages récoltés. Une véritable immersion dans le combat et la dureté de la guerre que le lieutenant-colonel Geoffroy a personnellement vécu.
Pour beaucoup, c'était la première fois. En tout cas, à titre personnel, c'était clairement la première fois que je vivais une telle expérience. On est très bien préparé à conduire tout un tas de gestes, d'actes militaires pour à la fois se protéger, à la fois détecter l'ennemi, à la fois tirer, donner des ordres en ce qui me concerne, puisque j'étais chef de peloton. Et donc on se prépare sur la théorie et confronté, je vais vous faire une vraie confidence, confronté au choc du feu, eh bien les gens se subliment. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si c'est l'adrénaline ou la qualité de la préparation, c'est sans doute un peu de tout ça. Et donc dans l'action, il n'y a pas de réelle difficulté. Il n'y a qu'une envie, c'est de s'en sortir, de réussir la mission, de ne pas avoir de pertes dans les rangs, donc de se préserver. Et plus on avance dans le mandat, plus c'est facile, puisque meilleur on est en termes de réaction et de mécanismes mis en œuvre. La difficulté, c'est parfois après coup, une fois qu'on prend conscience de ce qui s'est passé, de la proximité qu'on a pu avoir avec la mort, lorsqu'on a entendu une balle à proximité, ou qu'on a reçu une roquette proche de son engin, ou qu'on a vu un camarade être blessé. C'est après coup que parfois il y a des questionnements qui se lèvent, mais sans qu'elle le remette jamais, en tout cas de ce que j'ai connu, sans qu'elle ne remette jamais en cause l'engagement et le déroulé de la mission.
Des propos recueillis par Christophe Lourenço. Le 4e régiment de chasseurs, qui a été aussi désengagé cette année du Mali, avant d'être à nouveau déployé fin février, début mars en Roumanie, après l'invasion de la Russie en Ukraine. 150 soldats alpins y sont postés. Dans l'attente d'un retour prochain à Gap, l'escadron conduit également des entraînements avec les autres forces internationales sur place. À l'heure actuelle, le 4e régiment n'a pas prévu d'y envoyer à nouveau des hommes.
Le syndicat de police Alliance dans les Hautes-Alpes dénonce le solde migratoire négatif au sein de la PAF de Montgenèvre.
Selon l'organisation, les effectifs subissent de nombreux départs, 6 mutations et une démission pour seulement 2 nouvelles arrivées. Alliance alerte les pouvoirs publics alors que l'activité à la frontière reste soutenue et dénonce également les motifs de cette hémorragie dans l'effectif. Policiers calomniés, épuisés, des promesses non tenues, écrit le syndicat.
La chasse au tétralyre et au lagopède alpin à nouveau autorisée dans les Hautes-Alpes.
La réponse ne tombera pas avant septembre. Si ces galiformes de montagne figurent pour l'heure toujours dans le tableau de chasse, la préfecture précise que la décision tombera dans 4 mois puisqu'une consultation publique est toujours en cours. Elle se terminera ce 4 juin. D'autre part, la décision sera conditionnée aux résultats des comptages estivaux et aux recommandations de l'Observatoire des galiformes de montagne. Un nouvel avis consultatif de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage sera alors donné avant une décision finale prise par arrêté préfectoral. Pour rappel, la LPO et la SAPN s'opposent fermement à la chasse du tétralyre et du lagopède alpin, deux espèces respectivement classées vulnérables et en danger sur la liste rouge de l'UICN.
La SNCF massacre à la tronçonneuse, c'est ce que dénonce la SAPN dans les Hautes-Alpes.
Depuis plusieurs jours et plusieurs semaines, des sociétés mènent une campagne d'abattage d'arbres à Gap, la Fraissinouse, mais aussi Luce-la-Croix-Haute, la Ragne-Montéglin et Aspre-sur-Buèche. L'association écologiste a été alertée par des riverains et s'empare du dossier avec la LPO. Les deux associations pointent la destruction des lieux de vie d'espèces protégées, la dégradation de l'espace naturel à long terme, mais aussi les contradictions de la SNCF. En effet, les propres recommandations de l'entreprise des chemins de fer déconseillent l'entretien trop lourd en période de nidification et la non-préservation des arbres. Alors, quant aux questions des associations, aucune réponse de la SNCF. Avant d'engager des poursuites judiciaires, Jérôme Garnier, l'administrateur à la SAPN, veut faire en sorte de mettre fin immédiatement à ce qu'il décrit comme un massacre.
Ce qu'on réclame en fait aujourd'hui, c'est effectivement l'arrêt de ce chantier qui n'a pas été fait en concertation avec les associations, avec les riverains, même les politiques. Ils ont découvert le massacre en même temps que tout le monde. Donc on demande également qu'il y ait un élagage plutôt qui soit fait. On est conscient que les chemins de fer doivent être entretenus, on le sait. Par contre, ces coupes blanches, c'est plus de l'entretien. On a l'impression qu'ils veulent gagner du temps. C'est-à-dire que là, en faisant de telles coupes pendant 30 ans, on n'y revient plus. Voilà. On sait que l'élagage, ça demande du travail, ça demande du personnel, ça demande un engagement, ça coûte des sous. Les arbres, en fait, ils n'ont pas qu'un rôle décoratif. C'est pas du mobilier urbain, l'arbre. Il est là, il a été là avant nous, il a un rôle écosystémique. Ce sont des barrières naturelles contre le vent, contre la chaleur. Ils permettent justement à des espèces de se reproduire, de nicher. Quand on est sur la destruction d'espèces, c'est du massacre. Quand on est sur la destruction d'espèces arbustives et d'espèces animales, c'est du massacre. Il n'y a pas d'autre terme.
Jérôme Garnier au micro alpin de Julien Elzéar. Une compensation est même exigée par les riverains et les deux associations pour le préjudice contre la nature. Contactée par Alpe 1, la SNCF n'a pas donné suite à nos sollicitations.
Jean-Michel Arnaud, défenseur de l'or bleu des Alpes du Sud.
La lavande et le lavandin menacés par l'Europe, ou en tout cas par les réglementations REACH et CLP. Et si elles visent à protéger le consommateur et l'environnement contre les risques liés aux substances chimiques, elles mettent les les huiles essentielles de lavande et de lavandin dans la même catégorie que les huiles essentielles chimiques de synthèse, ce qui implique que certaines molécules présentes à l'état naturel dans ces extraits de plantes pourraient être jugées dangereuses, donc interdites. Le sénateur Walpin a présenté hier une proposition de résolution au nom de la Commission des affaires européennes. Il a pris une citation de Jean Giono, « La lavande est l'âme de la Provence ».
Le printemps, c'est le moment de faire le grand ménage et dans les forêts publiques de nos départements, c'est aussi la période des grands inventaires.
Et il y a du pain sur la planche pour les 44 experts des réseaux naturalistes de l'ONF qui œuvrent dans la région PACA mais aussi en Occitanie. La campagne de recensement des espèces a commencé. Géraud Lavandier, responsable ONF sur Digne-les-Bains, réalisera aujourd'hui un inventaire des oiseaux dans les forêts de Duy, dans le Pays d'Innois et du Vençon, près de Château-Arnoux-Saint-Auban. Un document qui permettra de connaître l'évolution des populations d'oiseaux, notamment forestiers.
Et on se chauffe vert à Manosque. D'importants travaux vont s'engager dès ce mercredi pour relier plusieurs bâtiments au réseau de chaleur de la ville.
C'est Calorem qui exploite ce réseau dans le cadre d'une délégation de services publics signée avec Durance Luberon Verdon, agglomération. Dès septembre prochain, le lycée des Iscles, son gymnase ainsi qu'une future résidence située dans le quartier des Embarades seront reliés au réseau. Une chaleur majoritairement issue de la biomasse, du bois, donc renouvelable et local. Avec ce chantier, c'est au total 1,3 km de canalisations souterraines qui seront ajoutées au réseau. Audrey Constantin est responsable communication.
Aujourd'hui, on dit que c'est une énergie effectivement qui est propre parce qu'on vient se substituer et remplacer les chaufferies individuelles qui fonctionnaient auparavant avec des énergies fossiles, hein, comme le gaz par exemple. Et donc, c'est des émissions de tonnes de CO2 en moins. Sur Manosque, le réseau, il évite à peu près chaque année les émissions de 2500 tonnes de CO2. Ça représente à peu près l'équivalent de 2000 voitures. Donc effectivement, le réseau de chaleur a ce double avantage, donc comme on vient d'en parler, un avantage environnemental, mais aussi un avantage économique, surtout dans le contexte actuel, car le prix de la chaleur venant d'énergies renouvelables comme la biomasse est stable dans le temps, contrairement au prix fluctuant des énergies comme celui du gaz qu'on peut constater en ce moment.
Et le réseau de chaleur de Manosque de 3 km à la fin de ce chantier permettra à terme de chauffer l'équivalent de 1900 logements.
En bref, il reste le numéro 1, c'est Didier Long qui a été réélu à la tête de l'UDE 04.
Candidat à un second mandat jusqu'en 2025, le gérant des transports Brémont a été choisi le 17 mai dernier à l'unanimité par le conseil d'administration de l'Union des entreprises des Alpes de Provence, avec 8 nouveaux entrants au sein du conseil d'administration. L'UDE connaît également un certain renouvellement avec 5 anciens et 3 nouveaux dans le nouveau bureau, allié expérience et jeunesse pour préparer l'avenir de cette belle structure qui compte aujourd'hui plus de 1000 adhérents et emploie 6 salariés. C'est ce qu'a précisé le patron des patrons basalpins.
Et puis les Alpes d'Haute-Provence qui ont la flamme olympique dans le cœur.
Et bientôt sur le territoire, alors que le département recevait hier au Collège de Volx le label Terre de Jeux 2024, à la veille de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques, la présidente du conseil départemental, Liane Bareille, a confirmé l'accueil de la flamme olympique sur les Alpes d'Haute-Provence. Alors cela pourrait avoir un coût, puisque pour accueillir la flamme dans son département, il faut débourser 150 000 euros, une somme qui a déjà découragé la Haute-Vienne, la Loire-Atlantique, l'Indre-et-Loire, les Côtes-d'Armor, l'Orne, les Vosges ou encore le Lot-et-Garonne.
Enfin, Barcelonais qui veut s'offrir une nouvelle œuvre pour le musée de la vallée.
Basé dans la villa mexicaine La Sapinière, le musée met en scène l'histoire des migrations proches et lointaines des habitants de Lubaye pour venir agrémenter la nouvelle scénographie de la salle des gens de Lubaye, gens du Piémont. La municipalité souhaite acquérir les trois pèlerins du sculpteur Jean-Louis Reyna, natif du Vernet-Fours, mais aux racines piémontaises. Un achat de 11 000 euros que la mairie de Barcelonnette espère réaliser par le biais d'un appel à dons avec la délivrance d'un reçu fiscal qui donne suite à une réduction d'impôts.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.